Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour entendre un conférencier dont le nom vous est évidemment connu, c'est le professeur Jacques Testard. Son nom est associé pour nous aux premières réflexions, aux prises de conscience dans le milieu scientifique sur les questions d'ordre éthique. Christine Berton, journaliste scientifique, sera plus à même de faire la présentation de notre prestigieux conférencier ce soir. Je rappelle que les conférences de l'Hôtel de Ville, organisées par l'association Ocitodi, se réalisent en partenariat avec la Rotonde École des Mines et le Centre Max Weber. Vous trouverez à votre disposition ce soir le programme du cours public de philosophie qui a lieu aussi à l'Hôtel de Ville et qui commencera en 2015, en janvier, le 7 janvier exactement. Les ateliers d'Ocitodi ont lieu rue André Malraux. Le cours public a lieu à l'Hôtel de Ville, les ateliers d'Ocitodi ont lieu rue André Malraux. L'atelier sur Aristote continue. La prochaine séance est le 22 janvier. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir oublié de vous dire trop de choses. Je vais laisser la parole à nos invités de ce soir.
Merci beaucoup, Jacqueline Dessagne, pour cette présentation. Bonsoir à vous. Merci d'être venus nombreux pour écouter effectivement Jacques Testard, qui va nous parler à partir du dernier ouvrage qu'il a publié cette année, « Faire des enfants demain ». Comme le critique d'art ou le critique littéraire, le critique de science, qui n'est absolument pas un ennemi de la science, s'autorise à porter des jugements plutôt qu'applaudir toutes les productions de laboratoire. Cette revendication de Jean-Marc Lévy-Leblon, Jacques Testard l'a faite sienne depuis près de 30 ans. Pionnier des méthodes de procréation assistée, comme vous le précisiez à l'instant, aujourd'hui directeur de recherche honoraire à l'INSERM, vous avez réalisé, Jacques Testard, avec votre équipe, la fécondation in vitro qui, en 1982, donnait vie à Amandine, premier bébé éprouvette né en France. Tout en poursuivant vos recherches, vous vous inquiétez du potentiel eugénique exceptionnel, du diagnostic préimplantatoire et des risques que ce DPI entraîne de possibles tri des embryons selon des critères sans limite. Auteur de nombreux ouvrages dans lesquels vous défendez l'analyse critique de la science afin de justifier l'engagement éthique et puis aussi afin de nourrir la démocratie. En 1986, dans L'œuf transparent, vous écrivez « Moi, chercheur en procréation assistée, j'ai décidé d'arrêter, non pas la recherche, mais celle qui œuvre à un changement radical de la personne humaine. » Dans ce même ouvrage, vous proposez d'ailleurs qu'on s'abstienne d'inventer le DPI. Depuis lors, vous ne cessez de vous opposer au tri sélectif d'embryons et à la banalisation de l'eugénisme. Ainsi, toujours en 1986, vous lancez une alerte éthique pour mettre en garde contre la relance d'un nouvel eugénisme rendu possible par les progrès techniques. En 1988, vous êtes l'un des 17 chercheurs de toute discipline signataires du manifeste « Maîtriser la science ». En 2002, vous créez, avec d'autres, et puis vous présidez, la Fondation Science Citoyenne, qui œuvre à la promotion de conventions de citoyens dont le processus, basé sur le volontariat et l'absence de conflit d'intérêts, permet aux citoyens de participer activement aux choix éthiques en amont des innovations plutôt qu'au moment de leur utilisation, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Vos engagements en attestent. Jacques Testard, vous défendez une recherche indépendante des puissances d'argent et puis respectueuse de la vie humaine, ainsi qu'en témoigne notamment ce dernier ouvrage que je vous citais tout à l'heure, « Faire des enfants demain », paru donc cette année au Seuil. Ce livre, vous l'ouvrez sur une histoire de la procréation et l'on s'aperçoit alors que la compréhension de la procréation, mais aussi sa maîtrise, finalement, c'est une très vieille histoire.
Bonsoir. Donc oui, effectivement, la procréation a occupé les savants de tous les temps, mais c'était plutôt pour l'empêcher que pour la favoriser, parce que c'est plus facile. On n'a pas les moyens de favoriser la procréation si on ne connaît pas mal de physiologie quand même. si on ne sait pas qu'il y a des spermatozoïdes et des ovules. Ça, les Grecs, les Égyptiens ne savaient pas tout ça. En revanche, quand on a observé chez les animaux, mais aussi chez l'homme, qu'un enfant ou un petit animal naît toujours après un rapport sexuel, alors est venue l'idée que le rapport entre le mâle et la femelle, le coït, était responsable de ça, et on a cherché des moyens pour l'empêcher. Pour l'empêcher, bon, il y a eu des préservatifs qui ont été fabriqués avec des vessies de porc, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu des espèces de colles qui étaient faites avec de la résine et qu'on mettait dans le vagin des femmes. C'était relativement efficace. Donc on a su pratiquer la contraception il y a déjà très très longtemps, il y a des milliers d'années. Quant à maintenant la procréation assistée, c'est-à-dire l'aide à la procréation pour des gens qui n'arrivent pas à faire des bébés tout seuls, c'est plus récent. On peut dire que le début, ça a été l'insémination artificielle chez les animaux. Ça date du XIVe siècle. Les Arabes l'avaient inventé pour leurs étalons, puisque quand on a un cheval de haute qualité, bon, il produit beaucoup de sperme. Alors, on ne connaissait pas les spermatozoïdes. Mais il y a eu quand même cette idée de fractionner le sperme, de recueillir le sperme, de le fractionner et d'inséminer plusieurs juments avec, au XIVe siècle. Bon, ça s'est appliqué à l'espèce humaine de façon anecdotique, on pourrait dire, au XVIIIe, en Angleterre, aux États-Unis, en France, mais quelques cas comme ça, et dans des conditions très mauvaises. Ça montre qu'il faut connaître la physiologie. À ce moment, on ne savait pas à quel moment se produit l'ovulation. On n'avait pas cette notion vraiment de l'ovulation. Ça avait été décrit chez l'animal, chez l'oursin, mais on ne savait pas à quel moment. Et en particulier, les médecins croyaient que l'ovulation de la femme se produit pendant les règles. Donc, ils avaient tout faux. Et ils inséminaient donc pendant les règles. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils annonçaient, comme beaucoup de médecins aujourd'hui, après fécondation in vitro, le même taux, 50% de succès. Évidemment, quand il n'y a personne pour vérifier, on peut annoncer n'importe quoi. Bon, l'Église catholique est entrée en guerre contre l'insémination parce que c'était un procédé qui n'était pas naturel. Et il y a donc eu un grand trou. C'est seulement à partir du milieu du XXe siècle, et plus particulièrement à partir du moment où on a su congeler le sperme, c'est-à-dire dans les années 70, que s'est développée l'insémination artificielle, en particulier avec sperme d'un donneur, ce qu'on appelle IAD, insémination artificielle avec donneur, qui se pratique donc dans des banques de sperme dans le monde entier. Et en France, ces banques de sperme s'appellent les sécos, et je pense qu'on va en reparler. Donc, vous voyez que la procréation assistée, on peut la dater des années 70 dans l'espèce humaine, et très vite est arrivée la fécondation in vitro, qui est un peu plus compliquée, nettement plus compliquée que l'insémination artificielle. 1978, en Angleterre, le premier bébé. Et puis ensuite, donc, ça s'est développé dans le monde entier. On peut dire aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions de bébés qui sont nés de fécondation in vitro dans le monde. Ça représente 3% des naissances dans tous les pays développés, ce qui est quand même assez énorme. Et ça progresse, le nombre de cas traités progresse de 7 à 8% par an. Donc c'est une technologie en expansion, en croissance, on pourrait dire.
Alors une technologie en expansion. On peut donc imaginer un progrès. Et pourtant, pratiquement au moment où vous arrivez avec votre équipe à donner vie à Amandine, vous avez parallèlement peut-être une petite lumière rouge qui s'allume et qui vous dit « attention, possible danger ». Qu'est-ce qui a fait des clics? Qu'est-ce qui vous a incité à penser qu'à un moment, quelque chose peut-être vous échappait?
Alors une fois n'est pas coutume, je vais remercier les médias qui nous ont beaucoup agacés dans cette période, à nous photographier dans les couloirs, dans la rue, enfin, des trucs idiots. Et le remue-ménage qu'il y a eu autour de cette fécondation in vitro, moi, m'a beaucoup gêné. Je l'ai dit depuis le début, il y a 30 ans, m'a beaucoup gêné parce que je trouve que ce qu'on avait fait ne méritait pas une telle publicité. D'abord parce qu'on n'était pas les premiers au monde, c'était les Anglais. Bon, on avait tout refait. On avait réinventé tout parce qu'ils n'avaient donné aucune recette. Donc, on l'avait refait, mais malgré tout, on n'était pas les premiers. Et puis, j'ai tellement de copains qui font des recherches sur la souris ou sur la grenouille et qui trouvent des choses tellement plus extraordinaires que la fécondation in vitro que franchement, j'avais honte. J'avais honte de ça. Bon, je dois dire que le gynécologue avec qui je travaillais n'avait pas honte du tout. Et pour pas qu'il prenne toute la place, j'étais obligé de me mettre un peu quand même dans le couloir. Voilà, mais j'étais toujours gêné. Et il y a eu tellement de bruit autour de ça que je me suis interrogé. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait tellement de reprises dans les médias que les gens en redemandent. Les gens étaient, nous traitaient comme des héros. Bon, c'est pas, ça cache quelque chose. Et j'ai imaginé que c'était pas le fait qu'on ait procédé à la fécondation hors du corps qui était l'événement majeur. C'était le fait qu'on tenait l'embryon au laboratoire 9 mois avant sa naissance. On pourrait dire que la naissance devenait une renaissance. Donc l'embryon est conçu au laboratoire, si bien qu'il est disponible au laboratoire. Et je me suis dit, c'est ça certainement qui est en jeu. C'est pas sa conception. C'est pas. Je sais qu'à l'époque, aussi bien les psychanalystes que les curés disaient qu'on avait séparé la procréation de la sexualité. On savait faire ça depuis longtemps. Il y avait le coït interrompu, il y avait des préservatifs. Il y avait, bon, là-dessus, on n'avait rien inventé. Donc, c'était pas ça. Mais en revanche, on avait l'embryon sous le microscope. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cet embryon ? Et j'ai imaginé qu'avec les progrès de la génétique qui allaient vite, depuis déjà quelques 20 ans, on allait pouvoir identifier des caractères génétiques dans l'embryon qui permettraient de remettre dans l'utérus de la mère celui qui correspondait à un projet. Et pas n'importe lequel. C'est-à-dire qu'on allait faire finalement des naissances programmées avec 9 mois d'avance en faisant une analyse de l'embryon. Alors à ce moment-là, on sait beaucoup. Bon, j'ai écrit un bouquin pour en parler. Le bouquin s'appelait « L'œuf transparent » en 86. Donc c'était ça, on va voir dans l'œuf. Et évidemment, cette technique n'existait pas à ce moment-là. Donc on m'a dit que c'était idiot, que ça n'existerait jamais. Quand je dis « on m'a dit », c'était les généticiens, les gynécologues, les gens supposés savoir. Et 4 ans après, les Anglais, toujours les Anglais, hein, ont inventé ce qu'on appelle maintenant le diagnostic préimplantatoire. Donc ils ont inventé comment ça marche. On prend 2 cellules d'un embryon qui en a 8, c'est-à-dire âgé 3 jours après la fécondation. Il a 8 cellules. On en prend 2. Pourquoi on en prend 2 ? Parce qu'on va faire un test en doublé pour éviter une erreur. Et on va soumettre chacune de ces 2 cellules aux mêmes épreuves, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse génétique. Et à partir de cette analyse génétique, on aura un certain profil de l'embryon, normalement pour une caractéristique, mais on dira tout à l'heure que ça s'élargit largement, et l'embryon, il ne meurt pas, il vit très bien. Avec ses 6 cellules, il se débrouille, il se divise comme les autres, et donc, comme on a en général 5 à 10 embryons après fécondation in vitro, ben, on va choisir celui qui correspond au projet. Alors, au début, c'était la loi de 1994, c'est l'année des premières lois de bioéthique, a donc autorisé cette technique de DPI dans des conditions apparemment très strictes en France, qui sont réservées à des couples qui ont des raisons de craindre de transmettre à un enfant une maladie particulièrement grave et sans traitement. C'est ce que dit la loi, particulièrement grave et sans traitement. On est le seul pays qui ait dit une chose pareille. Dans les autres pays, c'est plutôt des commissions qui prennent la décision sans qu'il y ait ce canevas de maladies particulièrement graves. Mais on y reviendra tout à l'heure, ça ne change absolument rien, parce que personne n'est capable de dire ce qu'est une maladie particulièrement grave. Donc on a quand même des beaux textes chez nous, dans la loi. Et ces techniques, donc inventées en 1990, c'est répandu. Pour le moment, c'est encore limité, mais il y a déjà des dizaines de milliers d'enfants qui sont nés après avoir été triés dans l'œuf. En France, il y en a assez peu, quelques centaines, parce que c'est quand même plus contrôlé, plus strict, mais ça s'élargit également.
Quand vous dites on va choisir finalement l'embryon selon un certain nombre de critères, au service d'un projet, ce « on » qui choisit, qui c'est ? Et le projet, c'est le projet de qui ? C'est le projet des parents ? C'est qui est consulté ?
Pour le moment, c'est le projet des parents, c'est-à-dire que c'est à la demande des parents. Je ne crois pas qu'il y ait pour le moment une offre médicale de dire aux gens « vous devriez chercher telle anomalie dans votre embryon ». Bon, ça arrive peut-être dans des cas où les médecins seraient informés d'une tare génétique portée par l'un des parents. Mais ce n'est pas ça. Non, c'est les gens qui demandent. Mais les gens demandent n'importe quoi. Bon, aux États-Unis, actuellement, on fait le tri des embryons à la demande des gens pour un tas de caractères. Le premier étant le sexe de l'enfant. On fait le tri. Bon, il y a bien sûr les trisomies, tous les machins, toutes les anomalies. On commence à faire des tests pour la couleur des yeux, pour un tas de choses. Il faut payer à chaque fois par test, puisque la régulation de l'éthique aux États-Unis, ce n'est pas comme chez nous, avec des comités qui édictent des règles, voire des lois qui suivent ces règles des comités d'éthique. C'est simplement des rapports marchands, on pourrait dire, mais qui sont rédigés par des hommes de loi, par des avocats. En fait, c'est les avocats qui régulent complètement la bioéthique. Et si les gens ont donné leur consentement éclairé pour n'importe quelle technologie, ben cette technique, on peut l'utiliser. Tout le monde en est d'accord. Donc, vous voyez, c'est une conception différente. Mais quand je dis ça s'élargit, je peux prendre l'exemple quand même de la Grande-Bretagne, tout près de chez nous, donc, qui a inventé ce tri d'embryons. Aujourd'hui, on peut faire du tri d'embryons en Grande-Bretagne pour éviter d'avoir un enfant qui louche. Quand les gens ont un strabisme grave, bon, c'est pas un truc léger, un petit défaut, mais un strabisme grave opéré, et qu'ils veulent absolument pas qu'un enfant souffre le regard des autres, parce qu'on se moque d'eux, parce que c'est sûrement une maladie, c'est pas une maladie, mais c'est un handicap particulièrement grave pour ces gens-là. C'est pour ça que ça veut rien dire, particulièrement grave. Eh bien, ils peuvent demander une fécondation in vitro sans être stérile. Et on va trier les embryons en enlevant ceux qui portent le gène qui va donner ce handicap. Alors, on est passé un peu vite. Vous voyez, au début, la fécondation in vitro était faite simplement pour remédier à la stérilité. Et puis, à partir de la loi de 1994, on a ajouté ce DPI. Le DPI ne s'adresse pas à des couples stériles, mais à des couples qui sont à risque de transmettre une maladie et qui feront la FIV, la fécondation in vitro, spécifiquement pour trier les embryons. Donc on a fait un pas quand même. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose. Quand je disais tout à l'heure que j'ai eu une petite illumination en 85, en me disant c'est pas possible, qu'est-ce qu'on veut, c'est l'embryon qui est la cible de quelque chose. Mais j'avais une autre idée de ce qu'on appelle l'eugénisme, peut-être je définirai mieux après. Mais j'étais déjà un peu en guerre contre une pratique eugénique qui se développe depuis les années 70 en France et dans d'autres pays, à partir de l'insémination artificielle, et qui est le choix et l'appariement des donneurs. Je dis, il y a deux phases. Un donneur de sperme, il est choisi par la banque de sperme pour être d'abord avoir un sperme de qualité qui résiste à la congélation. Si le type a trois spermatos qui ne bougent pas, on ne va pas le prendre. Bon, sperme de qualité, on fait l'épreuve de congélation parce que tout le monde n'a pas un sperme qui résiste. Bon. On cherche évidemment les gros, enfin si le type est alcoolique ou autre, on évite quand même. Bon, tout ça paraît assez raisonnable. Et puis comme on maintient le mensonge, parce qu'en France, la règle que se sont données les banques de sperme et qui a été ratifiée par la loi, c'est l'anonymat du donneur, alors il faut faire en sorte que l'enfant ressemble à son père social. Il y a, malgré l'anonymat. Donc on ne va pas choisir un enfant, un donneur blond, si le père est brun, par exemple. Donc on fait des critères d'appariement. Ça, c'est le mensonge institué qui oblige à le faire. Mais il y a des choses plus importantes que ça. C'est ce que les SECOS, les banques de sperme, appellent l'appariement des couples reproducteurs. Je ne sais pas si vous sous-pesez cette expression. Appariement des couples reproducteurs. Moi, j'ai commencé à travailler à l'INRA avec des vaches et une expression comme ça pouvait effectivement être utilisée, mais j'étais étonné que dans le milieu médical, on parle d'appariement des couples reproducteurs. C'est complètement vétérinaire. En quoi ça consiste ? Eh bien, une fois qu'un donneur a été déclaré bon pour le service de sperme, on a congelé son sperme, il va falloir choisir quel donneur on va prendre pour chacune des patientes dont le mari est réputé stérile et qu'on va remplacer par un donneur. Et là, on fait une étude. Alors au début, c'était sur papier. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'il y a une grande discrétion des banques de sperme. Je ne sais pas s'ils font carrément des études génétiques en laboratoire. Mais en tout cas, il y avait un interrogatoire, et déjà, ça me paraît énorme, où on demandait aux donneurs de sperme les maladies qu'il y avait dans sa famille. Et on posait les mêmes questions aux femmes censées recevoir du sperme de donneur. Et évidemment, on évitait d'apparier, d'où le terme appariement, des gens qui aient les mêmes facteurs de risque. Par exemple, s'il y a du diabète dans la famille d'un donneur, on va l'utiliser, mais pas pour une femme qui a aussi du diabète dans sa famille. Vous voyez ? Or, cette idée-là m'a paru le renouveau de l'eugénique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on cherche un partenaire. On ne fait pas d'enquête. Je ne parle même pas de laboratoire, mais même comme ça, on ne cherche pas de quoi est mort ton oncle. Non, on ne fait pas ça quand même. Ça veut dire que les banques de sperme vont plus loin que ce que font les gens, on pourrait dire, qui ont la capacité de faire des bébés tout seuls sans passer par la biomédecine. De quel droit ? D'autant que ce n'est pas à la demande des gens, ça. En revanche, quand on leur explique, ils sont contents toujours. Ils ne se plaignent jamais. C'est un service en plus qu'on leur a donné. C'est-à-dire que les gens sont toujours inquiets de la naissance d'un enfant, donc les voilà rassurés. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un truc énorme, énorme, dans les années 70, et je le dis depuis 40 ans, que c'est les banques de sperme, en particulier françaises, parce que bon, il y a les banques américaines avec le business, le sperme de Nobel et tout, ça c'est dans la presse. Mais ce que je vous raconte là, vous ne l'avez jamais lu. C'est un truc qui est complètement sous le couvercle. Et j'ai trouvé que c'était que les banques de sperme françaises, en particulier, avaient réinventé l'eugénisme. Mais, alors, l'eugénisme en deux mots, je dis quand même ce que c'est. C'est donc la volonté de faire naître des enfants de bonne qualité. C'est un truc qui existe depuis le début des temps. Tout à l'heure, on parlait de la contraception ou de l'aide à la procréation qui existe depuis longtemps. Mais l'eugénisme, c'est très, très vieux. Ça se trouve dans toutes les cultures. Et en général, ça fonctionne. Il y a deux façons de faire. Il y a l'eugénisme négatif, qui est de tuer les enfants à la naissance. Donc ça, vous savez que ça se faisait chez les Grecs, par exemple, mais ça s'est fait dans plein d'autres cultures. Hein. Et puis, il y a l'eugénisme positif qui est, on pourrait dire d'apparier, pour copier les sécos, des gens de bonne qualité génétique, en général les familles princières, avec l'idée qu'on n'est pas aristocrate par hasard, on est d'un bon sang et on ne va pas le polluer avec la plèbe. Donc, de faire ces mariages-là, et ça, ça se faisait pour les pharaons, ça se faisait chez les Incas, dans plein de cultures. Autrement dit, il y a une tradition. Moi, je dis, s'il y a un gène qui est commun à toute l'humanité, c'est le gène de l'eugénisme. C'est une espèce de pulsion qu'il y a d'essayer de produire des enfants de qualité. Et bon, ça s'est fait depuis le début, je disais. C'était un peu dur, parce que quand même, tuer les enfants à la naissance, c'était quand même méchant. L'Église catholique, en particulier, est montée au créneau contre cela. Et finalement, ça a pu se pratiquer que quand on a découvert des techniques de castration qui évitaient à ce moment-là la conception. Ça, c'est vers 1900. On savait déjà fabriquer des eunuques, donc on savait stériliser des hommes depuis longtemps, mais les femmes, on ne savait pas, parce que c'est à l'intérieur du corps. Donc on a su faire des ligatures, et à ce moment-là, on pouvait donc stériliser des femmes et des hommes, et donc empêcher qu'ils aient des bébés. Et ces méthodes ont été utilisées dans les pays démocratiques. Ça a commencé aux États-Unis en 1907. Ça s'est répandu tout de suite en Europe, en particulier dans les pays du Nord, mais en Suisse, un peu en France aussi, en Allemagne. Ça s'est répandu par les sociétés d'eugénique. Le mot, à ce moment-là, n'était pas un gros mot. C'était venir en aide aux gens pour qu'ils aient des bébés de qualité, quoi. Alors, aux gens ou à la population, parce qu'on empêchait, en fait, les gens de procréer. Donc, on a stérilisé des centaines de milliers de personnes, de cette façon, quand même. Il faut le savoir. Au début du XXe siècle, avant le nazisme. J'insiste là-dessus, parce que souvent, je reçois des étudiants en première qui ont des devoirs à faire collectifs, et il y en a beaucoup qui choisissent l'eugénisme, et ils débarquent, et ils me font l'équation eugénisme égale nazisme. Ça, c'est le coup classique. Mais non, c'est pas... on ne peut pas dire que ça n'a absolument rien à voir. Le nazisme a récupéré l'idéologie eugénique de façon meurtrière, énorme, mais ça existait avant. Et après, donc, après la Shoah, après la période nazie, il y a eu un trou, évidemment, il y a eu un froid. Donc tout ça a été mis en veilleuse. Et je crois que c'est les banques de sperme qui ont réinventé, par des méthodes beaucoup plus cool, qui ont réinventé ce que j'appelle le nouvel eugénisme mou, démocratique, consensuel, qui est celui de l'appariement des couples reproducteurs. Et sachant ça, et étant déjà en bagarre contre cette pratique, c'est aussi pour ça que j'ai imaginé qu'on allait utiliser l'œuf humain qui était sous le microscope pour essayer de faire quelque chose d'analogue, mais de bien plus efficace. Parce que l'eugénisme, en dehors du fait qu'il est toujours méchant, il est assez con, il faut dire. Il n'est pas efficace. On ne peut pas améliorer l'espèce humaine, parce que c'est quand même le projet qui est là. On ne peut pas améliorer l'espèce humaine en faisant des stérilisations ou en choisissant des donneurs. On a pu faire ça pour les animaux, pour les plantes, mais on l'a fait pendant des générations et à tour de bras. On l'a fait sur l'ensemble des populations, des vaches, des cochons, du blé, du maïs. On a fait ça en gros. On ne peut pas imaginer qu'on passe tout le monde dans ce système. Donc ça ne peut pas avoir un effet. C'est plus idéologique que médical. Et en revanche, le tri des embryons, ça peut avoir un effet. Alors quelle est la différence? Si vous triez un donneur de sperme, ben, vous allez, par exemple, l'empêcher de procréer. Mais en fait, ce donneur de sperme, il aurait pu faire toutes sortes d'enfants, y compris des enfants géniaux, bien, des bancals, comme tout le monde, comme un type qui a un sperme normal ou qui a... Bon, je veux dire, il y a une telle loterie génétique dans la fabrication des gamètes, ovules ou spermatozoïdes, qu'on ne peut pas prévoir l'enfant qui naîtra à partir du géniteur, de l'homme ou de la femme. On ne peut pas. La preuve, c'est que les familles qui ont beaucoup d'enfants, les enfants ne sont pas tous pareils quand même, et heureusement. Donc, c'est une idée qui ne tient pas debout. Alors que si on s'adresse à l'embryon, il a déjà sa constitution génétique, qui est la même que celle de la personne qui va naître et qui va vivre pendant 70-80 ans. Autrement dit, trier les embryons, c'est trier l'humanité. Alors que de trier les donneurs de sperme, c'est quelque chose qui est complètement illusoire, du point de vue même de l'eugénisme. Donc, voilà.
Voilà, trier effectivement les embryons, c'est trier l'humanité. On va revenir quand même un petit peu sur cet eugénisme nouveau, mou, consensuel et démocratique que vous pointez, parce qu'il nous concerne tous. Les différents acteurs de cette grande machine sont les industries, il y a une donnée économique, industrie pharmaceutique notamment, laboratoires de recherche, il y a également les politiques, et puis il y a aussi nous. Et nous, c'est nous qui finalement validons, voire favorisons ce consensus mou, parce qu'on en devient acteur finalement malgré nous, acteur parce que avoir des enfants merveilleux et sans problème, ben c'est le rêve de chacun, du moins de ceux qui souhaitent des enfants, et que forcément, lorsque vous dites ça, on se dit « oui, mais finalement, c'est un progrès ». Or, ce que vous dites, c'est qu'on participe nous-mêmes d'un tri à venir de l'humanité et d'une révolution dans l'humanité elle-même, qui en fera aussi des personnes complètement en lien, dépendantes du monde médical et des techniques.
Oui, effectivement. Alors, moi, je fais des conférences sur ce thème. Bon, j'ai beaucoup d'autres sujets de conférences, mais celui-là, c'est celui qui m'émeut le plus. Et je vois le changement de mon auditoire depuis une trentaine d'années. Au début, les gens me disaient, mais c'est terrible ce que vous nous dites là, il faut faire quelque chose, il faut signer une pétition, il faut faire des manifs. Maintenant, on me dit souvent, mais vous êtes un ayatollah, pourquoi voulez-vous empêcher les gens d'avoir l'enfant qu'ils souhaitent, en bonne santé, tout le monde sera content, en quoi ça vous gêne? Il y a une évolution très rapide. Là, en 20 ou 30 ans, j'ai vraiment vu, il y a quelque chose qui s'est passé dans la société, c'est-à-dire qu'on admet. On admet que c'est, pourquoi pas? On admet l'idée aussi que tout ce qui est faisable, bah, si les gens le souhaitent, pourquoi pas? Bon, on pourra parler tout à l'heure de la GPA, d'autres trucs, mais tout ça est un peu dans la même chose. Mais il y a beaucoup moins de réactions au DPI qu'à la GPA, par exemple. Il n'y a pas de réaction, je ne vois pas. J'imagine pas qu'il y ait un jour des manifs contre le DPI. Or, il est en train de s'installer dans le monde entier. C'est une façon de procréer qui va se répandre. Alors peut-être je peux dire que pourquoi il va se répandre. Aujourd'hui, c'est limité, pas tellement à cause des lois d'éthique, ça tout le monde s'en fout un peu. On peut toujours tricher, on peut aller en Belgique, c'est pas loin. On peut faire ce qu'on veut en Angleterre ou ailleurs, en Espagne. Donc on fait ces techniques-là beaucoup plus largement qu'en France, dans des pays très proches. Donc c'est pas ça qui bloque. C'est que pour faire le DPI, il faut d'abord faire la FIV. Et pour faire la FIV, il faut d'abord faire la stimulation hormonale, le recueil d'ovules, et tout ça, c'est pas rigolo pour la femme. C'est ce que les femmes appellent le parcours du combattant. Et c'est vrai que c'est plein d'épreuves. Elles prennent 3 kilos en moyenne à cause des traitements hormonaux. Elles sont obligées d'être pendant 15 jours en suivi avec des prises de sang, des échographies, des machins. Bon, elles ne vivent pas, quoi. Et après, il y a l'opération de récupérer les ovules pour les féconder au laboratoire. Donc, tant qu'on en est là, effectivement, il y a un frein, on pourrait dire, naturel par le fait que la fécondation étant interne, normalement, si on veut changer l'affaire externe, la fécondation in vitro, il faut aller chercher les ovules dans le corps de la femme. Le problème ne se pose pas pour les spermatozoïdes, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est ça, à mon avis, le frein. Mais ce frein, il sautera si on arrive à trouver d'autres façons de produire les ovules que de faire tous ces traitements aux femmes. Et il y a deux voies. Il y en a une qui est déjà, qui a déjà marché chez la souris dans les années 90. pas avec une grande efficacité, mais malgré tout, que je considérais la voie d'avenir il y a encore 3 ans. Je pensais que c'était ça. Mais après, il y en a une bien pire. Alors la première, c'est de faire un petit prélèvement, ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement d'un millimètre cube de matériel vivant de la paroi de l'ovaire, plutôt chez une femme jeune, parce que c'est dans la paroi de l'ovaire que se trouve la réserve de cellules qui deviendront les ovules. Ces cellules, on les appelle des ovocytes, sont au début tout petits, et puis ils mettent 5 mois à peu près pour se transformer en ovule à raison de 1 par mois, puisque la femme produit normalement 1 seul ovule chaque mois. Avec les traitements hormonaux, on peut en avoir 10, 20, 30, mais c'est toujours un nombre relativement limité. Et la réserve, elle est là. Donc il y en a des milliers dans un tout petit morceau. Et donc en faisant, par exemple, à l'occasion d'une appendicectomie chez une jeune fille, c'est idéal, plus elle est jeune et plus la réserve est abondante, parce que ça s'épuise tout seul, bien avant les ovulations, ça s'épuise depuis la vie embryonnaire de la petite fille. À la moitié de la grossesse, elle a déjà perdu la moitié de son stock. Donc ça diminue sans arrêt jusqu'à la ménopause. Eh bien, plus tôt donc on ferait ce prélèvement, plus il sera riche en ovocytes, c'est-à-dire en cellules capables de devenir des ovules. Donc on peut imaginer, et j'avais imaginé que c'est ce qui se ferait, c'est de prélever un bout de paroi ovarienne, plutôt à l'occasion d'une intervention, mais on peut le faire spécifiquement, il n'y a pas besoin d'anesthésie, c'est vraiment quelque chose de très simple, et de congeler ce morceau-là, en attendant que cette petite fille veuille un enfant, donc qu'elle ait un partenaire, qu'elle soit devenue une dame, et aussi en attendant qu'on soit capable de faire quelque chose avec ce prélèvement. Parce que je dois dire que pour le moment, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, il n'y a pas beaucoup de recherches. Il y en a un peu chez l'animal, ça montre que c'est possible. Il y a des souris qui sont nées en 1995, comme ça, avec donc de ces ovocytes complètement immatures, cultivés. Mais étant donné que la nature ne sait pas bien faire non plus, la nature, elle amène à maturité 1 pour 10 000 de ces cellules. Ces ovocytes, il y en a 1 pour 10 000 qui deviendra ovule. Donc il y a un gâchis effroyable. Même si on est mauvais au laboratoire, on devrait arriver à 1%, c'est-à-dire 100 fois plus. Et donc à produire peut-être une centaine d'ovules à partir d'un prélèvement. Ce qui, évidemment, n'est plus gênant du tout pour la femme. Une fois qu'on lui a prélevé sa biopsie, qu'on a congelé ça, on va pouvoir produire en laboratoire des ovules, les féconder et dire voilà, vous avez 90 embryons. Voilà le... Et là, on peut faire une étude génétique beaucoup plus large que celle qui est faite actuellement, qui porte que sur quelques caractères. Mais on pourrait faire ce qu'on appelle un screening génétique, c'est-à-dire appliquer finalement tout ce qu'on peut faire, toutes les sondes génétiques, pour quelque chose qui est aujourd'hui de l'ordre de 2000 euros. Et ça diminue très très vite. L'année prochaine, ce sera 1000 euros. Donc, pour vous donner une idée, il y a 20 ans, c'était, je ne sais pas combien, 10 millions, ou, bon, c'était infaisable. Donc, ça diminue très vite. Et ce qui reste, bien sûr, c'est de mettre au point cette culture pour transformer les ovocytes en ovules. Mais il y a déjà, on voit déjà que les gynécologues qui ne connaissent pas ça, mais malgré tout, ils ont dû sentir quelque chose. Quand ils ont proposé, il y a 2 ans, de faire des prélèvements d'ovaires chez les femmes jeunes pour qu'elles fassent des bébés plus tard, pour éviter d'avoir les problèmes de grossesse au travail qui empêchent l'avancement professionnel, pour éviter aussi les anomalies de nombre de chromosomes qui augmentent avec l'âge de la femme. Si l'ovule est jeune, il n'aurait pas ce problème. Donc, ils ont déjà proposé il y a 2 ans qu'on fasse quasi systématiquement chez les femmes, à leur demande bien sûr, qu'on fasse un prélèvement d'ovaires. Ils n'ont pas précisé si c'était de prélever des ovules, c'est-à-dire finalement très peu de cellules, ou bien un morceau d'ovaire. J'ai vu des textes ambigus là-dessus. Et si c'est un morceau d'ovaire et qu'on le congèle, il est possible que dans 10 ans, une femme, même après 50 ans, puisse avoir des bébés à partir de ce prélèvement. Et qu'on pourrait faire évidemment des tests génétiques en nombre, puisque ces tests génétiques ils dépendent du nombre d'embryons disponibles. Si vous avez 3 embryons, vous ne pouvez pas être eugéniste. Sinon, vous mettez tout dans la poubelle. Bon, vous savez, on a tous des... On n'aura pas... Et de toute façon, ce n'est pas le bébé parfait, comme disent les journaux. Hein. Ça n'existera jamais. Mais c'est un enfant qui aura des caractéristiques, on pourrait dire, souhaitables. Donc ça, c'était ce que je prévoyais, ce que je disais comme avenir il y a quelques années. Et puis est arrivé quelque chose de nouveau qui est complètement révolutionnaire et fou. qui aussi ne marche pas encore, mais à mon avis, ça c'est la voie définitive. C'est ce qui s'est fait à partir des travaux du fameux prix Nobel Kanagawa, le japonais qui a eu un prix Nobel de médecine il y a 3 ans, pour avoir transformé des cellules banales en cellules hépatiques, nerveuses, toutes sortes de cellules à transplanter pour faire des greffes, par exemple. Bon, c'est à l'étude au niveau médical, mais il y a déjà des essais thérapeutiques avec ça. Ça concurrence les cellules souches embryonnaires, on pourra en parler si vous voulez. Là, c'est des cellules de la peau, par exemple, d'un individu. Il a fait ça chez la souris, puis il l'a fait dans l'espèce humaine. Et ça marche. Donc il peut, avec des cellules de la peau, en les mettant dans un certain environnement au laboratoire, il peut les transformer en cellules de foie, cellules du cerveau, cellules du rein. C'est absolument extraordinaire. Mais le plus extraordinaire, c'est que depuis ces travaux-là qu'on a eu le prix Nobel, il y a d'autres équipes qui sont mises à travailler là-dessus avec l'idée de fabriquer des spermatozoïdes ou des ovules à partir de cellules de la peau chez la souris. Et ils ont réussi. Ils ont réussi de façon encore, on pourrait dire, pas vraiment exemplaire. Malgré tout, ils ont montré la faisabilité. Alors qu'on pensait, tous les biologistes pensaient, même ceux qui ne sont pas biologistes mais qui ont eu des cours de sciences naturelles, on leur a raconté qu'il y a 2 lignées de cellules chez tous les animaux, dont l'homme. Il y a 2 lignées de cellules dans le corps. Il y a les cellules somatiques, donc toutes les cellules du corps. Et puis, il y a les cellules de la lignée de procréation, les cellules reproductrices. Et ces 2 lignées qui sont complètement étanches, c'est un mystère, mais ces 2 lignées étanches, on ne passe pas de l'une à l'autre. Et ben voilà que ces gens-là, ces chercheurs sont passés de l'une à l'autre. Alors là, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est beaucoup plus simple de prendre un petit morceau de peau que de prendre un morceau d'ovaire, évidemment. Et en plus, ce morceau de peau, on n'est pas limité en taille. Ça veut dire qu'on peut faire des centaines d'ovules si la technique marche. On peut faire des centaines d'ovules. C'est énorme. Donc des centaines d'embryons. Le sperme étant normalement pas le facteur limitant, sauf chez les gens qui sont heureusement encore assez rares, qui ne produisent pas du tout de spermatozoïdes, mais même chez ceux qui ont une fertilité abaissée, il y a beaucoup de spermatozoïdes, et on parlera peut-être tout à l'heure, il y a aujourd'hui des techniques qui permettent avec un spermatozoïde de féconder un ovule, alors que dans la nature, il faut 200 millions de spermatozoïdes. Donc on peut faire une économie du gamète mâle. Mais vous imaginez que si on arrive à mettre au point, je ne doute pas qu'on va y arriver, ces méthodes-là, c'est-à-dire à partir d'un prélèvement de peau, on fabriquera éventuellement des spermatozoïdes, je crois que ce n'est pas nécessaire, sauf dans des cas pathologiques, mais surtout des ovules chez la femme, mais alors ça change complètement la chose. Ça veut dire que tous les couples se poseront la question, est-ce qu'on fait le bébé dans notre lit, ou bien est-ce qu'on fait l'amour dans notre lit, puis demain on va à l'hôpital pour faire quelque chose de plus sérieux. Et il y aura évidemment des campagnes pour expliquer qu'on n'est plus des sauvages, et que maintenant on est responsable de ses enfants, et qu'il faut passer par la science pour faire un contrôle de qualité de l'embryon. Et il n'y aura plus que quelques écologistes pour faire des bébés comme avant. Mais je pense, et moi je suis persuadé que bien avant la fin du siècle, peut-être dans 20-30 ans, on ne fera plus d'enfants comme naturellement. Tous les enfants seront fabriqués en laboratoire. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Tous les gens ont peur d'avoir un enfant mal foutu. Mais en plus, on va leur promettre des enfants mieux foutus. C'est-à-dire les mieux qu'ils pourraient faire. Alors, ce n'est pas qu'on modifie les enfants. Ce n'est pas une transgenèse comme les OGM, comme les plantes génétiquement modifiées. C'est simplement de la sélection. Mais une sélection, on pourrait dire intelligente, qui porte sur une population d'embryons, comme a toujours fait l'eugénisme, sur des populations, et qui peut permettre de déterminer quel est le meilleur selon des critères qui seront toujours arbitraires, mais sur lesquels il y aura un consensus. À noter d'ailleurs que ce sera les mêmes critères dans le monde entier, sauf peut-être la couleur des yeux, des cheveux, enfin, des critères esthétiques peuvent avoir des réponses différentes selon les gens, mais des critères de qualité de santé, des critères pathologiques, je crois que personne n'ira demander soit un mongolien, soit un mucoviscidose, soit non, tous les gens diront ce qu'il faut enlever. Et puis si un jour on trouve des gènes en rapport avec des qualités comportementales ou intellectuelles, eh bien, évidemment ça s'ajoutera au panier. Et on pourra aussi ajouter ça pour avoir un enfant qui soit mieux. Alors, c'est un enfant que le couple a conçu. Ce n'est pas un enfant conçu dans le laboratoire. Il est fabriqué dans le laboratoire, mais à partir de ce que les parents ont été capables de faire. Or, tous, nous sommes capables de faire des enfants monstrueux et des enfants géniaux, par exemple. Donc, il y aura une tentation très forte. Il y aura des pressions. Vous évoquiez tout à l'heure les assurances, la sécurité sociale, il trouverait largement son compte. Évidemment, au début, ces techniques coûteront un peu cher, mais ça diminuera très vite. Et je pense que la Sécu trouverait son compte, parce que le handicap, c'est très cher. Les industriels auront des travailleurs qui seront moins souvent malades, sûrement, parce qu'on arrivera à éliminer pas mal de pathologies. Donc tout le monde y trouve son compte, les parents seront rassurés et en demanderont. Quant à l'enfant, alors ça, c'est une autre question. Je ne suis pas sûr que l'enfant soit plus heureux d'avoir été conçu de façon qu'il l'oblige ensuite à respecter une espèce de contrat de qualité. Et s'il n'a pas une mention très bien au bac, je crois qu'on lui fera le savoir.
Voilà, parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites, par rapport notamment à des mouvements d'église qui vont s'inquiéter en lien avec l'avortement de la disparition d'embryons. Ce que vous dites, c'est que vous, ce n'est pas tant des embryons perdus que vous voulez défendre, mais vous vous placez dans l'optique de qu'est-ce qui va se passer pour ceux que vous appelez d'ailleurs les survivants.
Oui. Les survivants du tamis génétique. C'est un tri, quoi. Alors effectivement, j'ai été courtisé, maintenant ça s'est calmé, par les catholiques intégristes depuis longtemps. Et j'ai fini par leur expliquer pourquoi notre combat n'était pas le même. Ils sont opposés au DPI, mais ils sont aussi opposés à l'avortement, ce qui n'est pas mon cas. Donc je leur ai dit que eux, ce qu'ils voyaient dans le DPI, c'était que si par exemple, il y a 10 embryons, on va éviter d'avoir un enfant qui ait telle pathologie, donc on va par exemple jeter la moitié des embryons. Et pour eux, c'est impensable, puisqu'ils considèrent que l'embryon est une personne. Bon. Moi, ce qui me gêne, c'est pas ce qu'on va éliminer. La nature fait ça largement. Et je ne crois pas que l'embryon soit déjà une personne. Mais ce qui me gêne, c'est celui qui va survivre. Le survivant du tamis génétique qui va avoir la charge d'assumer le projet parental et médical et sociétal de se comporter comme un enfant de la science, un enfant choisi, un enfant qui doit être bien sous tout rapport. Et je pense que ça doit être dur à porter pour les enfants. Et j'irai plus loin, je pense qu'une société qui choisirait ses enfants comme ça aussi modifie forcément les rapports entre les individus, la considération qu'on a pour les handicapés qui existeront toujours. Même si on passe par là, il y aura toujours des choses. Il y aura pendant la grossesse quelque chose qui se développe, il y aura un truc qu'on n'aura pas vu, il y aura des accidents. Et on supportera de moins en moins les handicapés, ce qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment un progrès. Et j'irai plus loin, alors d'un point de vue biologiste, à long terme, il y a un danger énorme pour l'espèce. Parce que je disais tout à l'heure que tout le monde va demander à peu près le même bébé dans le monde entier. Du point de vue de la santé, tout le monde va demander un enfant en bonne santé. Mais bon, donc on connaît des gènes qui sont effectivement défavorables. Tout le monde va demander qu'on ne prenne pas un enfant avec ces gènes-là. Ça veut dire qu'on va formater une génération où on aura éliminé ces gènes. Étant entendu qu'il faut savoir que ces gènes, ils se reproduisent à chaque fois. Enfin, ils réinterviennent à chaque fois. Par exemple, que les enfants qui naissent de mucoviscidose, dans un tiers des cas, les parents ne sont pas porteurs du gène. C'est des mutations qui sont arrivées pendant la fabrication des gamètes. Autrement dit, même si on fait des enfants qui ne portent pas les mauvais gènes, ils pourront faire des gamètes porteurs de mauvais gènes et les transmettre. Donc de génération en génération, mais l'eugénisme travaille toujours quand même à long terme, on arrivera à épurer avec quelques accidents qui seront de plus en plus mal tolérés, j'insiste là-dessus. Malgré tout, on arrivera à tolérer pour le gros de la population. On aura une population de bonne qualité génétique selon les critères des spécialistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après quelques, je sais pas, 10 générations peut-être, on aura changé l'espèce humaine. On l'aura modifié, c'est-à-dire on lui aura retiré beaucoup de caractères dont certains, on ne savait pas qu'ils étaient bénéfiques. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a des bons gènes et des mauvais gènes. Il y a des gènes qui produisent des effets à la fois positifs et négatifs. Il y a des gènes de maladies, par exemple, et qui protègent d'autres maladies. Alors, je raconte ça un peu dans mes bouquins en général. Ça existe, c'est démontré. Donc, ce n'est pas des bons gènes ou des mauvais gènes. Ça dépend quel est le critère qu'on prend. Et on se retrouvera donc avec une population pour laquelle on a fait ça un peu à l'esbrouve, parce qu'il ne faut pas croire que la génétique a tout compris. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'analyser un génome, ça c'est vrai que c'est extraordinaire, mais c'est de l'informatique, on pourrait dire. Mais à partir du tableau de l'ADN d'un individu, être capable de savoir ce qui va devenir et comprendre comment tel gène intervienne pour réaliser tel caractère, on ne sait pas ça. Ça, on ne sait pas, ça mettra encore très longtemps. Autrement dit, on risque de se mettre le doigt dans l'œil et de jeter des embryons qui portent des gènes dont on croit qu'ils sont délétères, mais qui en fait peuvent être des gènes de qualité. Je prendrai qu'un exemple, c'est il y a à peu près 5% des humains qui sont réfractaires au virus du sida. Ils ont un gène de résistance. Alors on a trouvé ça il y a 20 ans, mais on n'aurait pas trouvé ça. Je pense que dans un tri d'embryons, on aurait dit c'est quoi ce machin-là ? Allez, on jette, hein, s'il y en a beaucoup. On jette, ça dépasse. Et qu'il y a beaucoup de gènes comme ça, dont on penserait se passer intelligemment, mais qui nous amènerait finalement à une perte de variété dans l'espèce. C'est assez drôle parce qu'on parle beaucoup de la biodiversité pour les petites plantes, les papillons, les choses comme ça. Pour l'espèce humaine, personne n'y pense. Mais la biodiversité pour l'espèce humaine, c'est la même chose. C'est la survie qui est en jeu. Si on perd de la diversité, on perd des chances de résister à une catastrophe. Par exemple, une invasion par une nouvelle bactérie, un virus, ce qui arrive de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On guérit plein de maladies, mais il y en a davantage qui arrivent. Donc, si on a une population qui est incapable de résister, parce qu'elle a été formatée sur d'autres caractères que de résister à cette maladie encore inconnue à ce jour, eh bien, c'est toute l'humanité qui disparaît. Donc, on peut dire aussi que ce n'est pas un chemin intelligent du point de vue de la logique biologique, ce tri d'embryons. En dehors de tous les aspects moraux, sociaux, psychologiques, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, il n'empêche, si vous voulez, que moi, je suis très embêté parce que je m'aperçois que je tiens ce discours. Les gens m'approuvent relativement, mais je vois bien qu'ils se disent « Bon, mais après tout, on va sûrement trouver quand même des façons de retirer que les choses mauvaises. » Et bon, bah, croyez-y. Moi, je me sens de plus en plus isolé avec ce discours-là. J'ai l'impression de radoter. Et voilà, quoi.
Quand vous dites vous avez l'impression de radoter, est-ce que avec les débats aujourd'hui qui traversent la société, vous avez parlé effectivement du DPI, mais aussi de la GPA, est-ce que vous avez pu échanger et comment est-ce que vous arrivez à échapper au piège qui est celui aussi d'un discours qui peut être dogmatique sur la GPA et qui est tenu par des mouvements qui sont ceux qui ont tenté de vous récupérer aussi à un moment.
Alors si on parle de la GPA, je rappelle c'est la gestation pour autrui, bien mal nommée parce que le mot autrui, ça veut dire, ça résonne comme altruisme, générosité. En fait c'est la location d'utérus. C'est payer une femme pour que son utérus soit loué pour porter un enfant qui n'est pas à elle. Donc c'est déjà moins poétique et moins généreux. Je ne crois pas qu'il y ait des femmes sensées en dehors d'un lien affectif, une sœur ou autre, mais bon, ça doit être quand même exceptionnel. Je ne crois pas qu'il y ait des femmes sensées qui portent un enfant comme ça, simplement pour faire plaisir à des gens qui ne peuvent pas faire un enfant tout seul. Bon, c'est tellement une épreuve de porter un enfant, et ce n'est pas seulement une épreuve, mais c'est tellement un engagement du corps et un rapport qui est fait avec cet enfant que c'est très très difficile. D'ailleurs, la preuve, c'est que là où ça se fait, en France, vous savez, c'est interdit. Donc les Français allaient avant en Inde, aujourd'hui ils vont aux États-Unis. Parce que même en Inde, ça s'est un peu bloqué. Aux États-Unis, c'est mieux organisé, c'est beaucoup plus cher, mais c'est clean. Donc ils vont aux États-Unis. Et comment on fait ? On pourrait très bien, puisqu'il s'agit de couples homosexuels mâles, hein, c'est deux hommes qui veulent un bébé. Bon, donc ils le font porter par une femme. Eh bien, on pourrait imaginer qu'on insémine cette femme avec le sperme de l'un des deux hommes ou avec les deux, puisqu'il ne faut pas de rapport sexuel. Bon, donc on insémine, et puis si la femme est enceinte, elle porte le bébé au bout de 9 mois, voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. En fait, il y a deux femmes qui sont exploitées dans l'affaire. Il y a une première qui sert à donner ses ovules pour faire une fécondation in vitro, avec le sperme des hommes. Et puis une seconde à qui on va transplanter les embryons issus de la première. Vous voyez le truc ? Donc c'est plus cher, c'est plus lourd, et pourquoi tout ça ? Bah parce qu'on a peur que la femme qui porte l'enfant s'attache à cet enfant davantage si elle a la notion que c'est le sien. Là, c'est un enfant étranger qu'on lui a mis. Donc, elle est seulement une lessiveuse, on pourrait dire, pour faire l'écho au bébé éprouvette. Là, ce serait le bébé dans un gros bocal vivant. Donc il y a plus de chances pour qu'elle le donne. Bon, vous savez qu'il y a quand même des cas où les femmes ne veulent pas le rendre. Mais tout se ramène techniquement. Un couple homosexuel, si c'est des lesbiennes, bon, c'est des lesbiennes, elles veulent être inséminées avec du sperme. Si c'est donc des homosexuels masculins, ils veulent inséminer une femme, finalement. Autrement dit, ce n'est pas la fécondation in vitro qui est l'obstacle, c'est l'insémination artificielle. Or, l'insémination artificielle n'est pas une technique médicale, contrairement à ce qu'ont fait croire les gynécologues. L'insémination artificielle, c'est tout bête, c'est comme de prendre sa température, ce n'est pas dans le même orifice. Et au lieu d'un thermomètre, eh ben, on introduit une paillette avec du sperme. Mais c'est un truc que font les lesbiennes américaines depuis 40 ans, toutes seules. Bon, elles donnent $100 à un étudiant, elles récupèrent le sperme et elles s'auto-inséminent. Bon, je ne dis pas que c'est idéal parce qu'il pourrait y avoir des pathologies. Et puis en plus, ça crée toujours l'anonymat, ce système crée de l'anonymat. Bon, moi, un peu par dérision, et vous disiez comment je m'en sors, ben voilà comment je m'en sors. Moi, j'ai proposé aux homosexuels qui se débrouillent. Moi, je n'ai pas de, j'ai pas de problème moral avec le fait que des homosexuels élèvent un enfant. Je ne suis pas sûr qu'ils l'élèveraient plus mal que des hétéros. Il n'y a rien qui le démontre. Donc, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas à mobiliser la biomédecine pour faire un acte qui pourrait assumer tout seul. Ce n'est pas comme des gens stériles. Or, il n'y a pas besoin de fécondation in vitro, qui, à l'évidence, ne peut être fait que par des spécialistes. C'est quand même compliqué. L'insémination, c'est tout bête. Donc, il suffit qu'ils trouvent un donneur de sperme, que ce soit des lesbiennes ou des homomâles. Il suffit qu'ils trouvent un donneur de sperme. Et une mère porteuse, pour ce qui est des hommes. Alors, parce qu'eux, ils sont eux-mêmes les donneurs. Mais il faut qu'ils trouvent une mère porteuse. Alors, pour ce qui est des lesbiennes, je dis ça existe dans pas mal de pays et depuis le début des temps. C'est pas très difficile. Pour ce qui est d'une mère porteuse, évidemment, ça existe aussi depuis le début des temps. Hein, c'est raconté dans la Bible et ça existe beaucoup dans l'histoire. Mais c'est pas évident. Si on met pas d'argent dans l'affaire, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va faire ce travail de gestation pendant 9 mois. Donc moi je dis, si vous trouvez quelqu'un dans votre environnement qui n'a pas d'argent, qui a en plus une possibilité que la mère porteuse ou le donneur de sperme soit identifié pour l'enfant, moi ça me paraît important. Moi je ne vois pas pourquoi à l'état civil il n'y aurait pas tous les gens qui interviennent dans ces nouvelles conceptions un peu bizarres, mais ce serait beaucoup moins bizarre pour l'enfant qui en est s'il y avait une clarté sur je suis né parce que telle femme a porté l'embryon, je suis né parce que tel homme a donné son sperme, pourquoi pas? Alors si tout ça n'est pas possible, parce qu'apparemment ça paraît impossible, la réponse elle vient de la société, elle vient pas des comités d'éthique ou de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans la société on ne trouve pas des gens qui peuvent être complices des actes qui sont demandés par les homosexuels pour faire des enfants. Pour moi, c'est une régulation éthique. Et je m'en sors, vous avez employé l'expression, et c'est vrai, c'est pas une pirouette, je m'en sors comme ça. Moi, je dis, moi, je suis pas contre, mais démerdez-vous. Vous pouvez le trouver, c'est possible techniquement. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile. Moi, il y a des homos qui m'ont dit que j'étais méchant avec eux, parce qu'on fait ça, par exemple, pour les hétéros. Mais moi, je suis contre aussi pour les hétéros. L'insémination anonyme par les banques de sperme, je trouve ça absolument scandaleux. D'autant que la plupart du temps, les gens proposent eux-mêmes un donneur, le frère du mari en général, ou quelqu'un comme ça dans la lignée du mari, quelqu'un qui est fertile. Ils le proposent, c'est refusé. De quel droit c'est refusé? Pourquoi ce serait pas... Il y a plein de sociétés qu'on appelle primitives, dans lesquelles ce truc-là se fait sans médecin, et que c'est tout à fait accepté, c'est dans la culture, ça pose pas de problème pour les enfants. En tout cas, ça en pose moins que le donneur anonyme. Donc, voilà.
C'est ce que vous appelez l'aide conviviale à la procréation.
J'ai appelé ça l'aide conviviale à la procréation. J'avais écrit un article dans Le Monde qui m'a valu quelques courriers, mais voilà.
Alors avant de vous céder la parole pour des questions, on va en arriver à ce que vous proposez. Eh bien, vous nous proposez finalement rien de moins qu'une utopie, avec néanmoins des choses qui commencent à se mettre en place. Vous avez sous les yeux la convention de citoyens. Et à travers justement votre fondation, c'est ce que vous souhaitez en faire la promotion. Alors vous allez peut-être en quelques mots nous expliquer quel est ce modèle qui depuis une vingtaine d'années existe au Danemark et qui véritablement ne demande pas simplement l'avis comme ça des citoyens comme nous par exemple ce soir, mais qui les invite à se former pour pouvoir argumenter, comprendre, nuancer et enfin se prononcer.
Oui, alors d'abord, quelle nécessité pour des nouvelles procédures pour prendre des décisions. Bon, bah, c'est en plein dans l'air du temps. Hein. On voit bien qu'avec le barrage de Sivens, avec Notre-Dame-des-Landes, avec, et avant avec les OGM, le nucléaire, les nanotechnologies, bon, il y a des débats publics organisés, mais qui n'ont pas d'effet. Qui n'ont pas d'effet, et c'est pas un système qui permet, qu'on peut dire complètement démocratique. C'est un système qui permet aux dirigeants de dire, voilà, on a demandé l'avis des gens, donc on a fait de la démocratie, mais en fait, ils suivent toujours ce qu'ils avaient déjà prévu, c'est toujours programmé à l'avance. Et donc, on a, à la Fondation Sciences Citoyennes, on a imaginé qu'il pourrait y avoir un autre système qui soit fiable et qui dépendent pas des experts, parce que dans tous ces débats publics, c'est toujours les mêmes qui viennent, enfin, les spécialistes du sujet, qui viennent pour défendre la technologie. Il y a très peu de gens en face pour dire le contraire, ou alors on les prend pas au sérieux. Donc, il y a une orientation des citoyens pour aller vers la technologie, et quand ils vont malgré tout contre, bon, on n'en tient pas compte. Donc on a imaginé une procédure qu'on a repiquée, comme vous disiez, du Parlement danois, qui, vers 1990, a inventé ce qu'ils ont appelé les conférences de citoyens, qu'on appelle aussi conférences de consensus, mais le mot est très mauvais, parce qu'il ne s'agit pas de trouver un consensus, il s'agit de produire un avis avec éventuellement l'expression de dissensus, qui peuvent exister et qui sont très informatifs pour nos élus. Donc le but, ce n'est pas de remplacer les élus, c'est d'être la procédure privilégiée pour les informer, pour qu'ils prennent une décision. Voilà, c'est ça le truc. Pourquoi une procédure privilégiée? Parce que je disais, actuellement, c'est les lobbies qui font le truc derrière. Et comment ça marche, une conférence de citoyens? Eh bien, au lieu que ce soit des gens qui ont un intérêt particulier, on les choisit justement comme n'ayant pas d'intérêt particulier. Donc on les tire au sort. On les tire au sort sur les plus grandes listes, c'est les listes électorales. On les tire au sort là-dessus. On fait des groupes, un groupe d'une quinzaine de personnes. Alors ça choque toujours beaucoup parce qu'on dit mais 15 personnes, c'est rien du tout. Bah, c'est rien du tout, mais c'est le bon effectif d'après les psychosociologues pour manager un groupe, pour qu'il y ait vraiment du rendement et pas trop de tension et pas de petits chefs. Et bon, c'est le bon effectif dans la conduite de groupe. Et puis en plus, ça a du sens. Ça a du sens à tel point que je viens de dire psychosociologue, j'y reviendrai, mais il y a un psychosociologue qui anime ce groupe, qui reste là, qui lui n'a pas d'intérêt à défendre, il est seulement un technicien du travail de groupe. Et je me souviens que dans la première conférence de citoyens qui était sur les OGM en 98, la deuxième qui était sur les changements climatiques en 2002, et encore une autre qui était celle de la ville de Paris sur les ondes en 2012 à peu près, c'était le même psychosociologue qui est venu, parce qu'il est vraiment très bon, donc c'est un professionnel. Et il a eu cette réflexion, il a dit « j'ai toujours eu le même groupe ». C'est extraordinaire. Donc c'était des gens qui n'étaient évidemment pas les mêmes. C'était 15 personnes qui avaient chaque fois été tirées au sort. Il avait cette impression d'avoir le même groupe. Ça veut dire que 15 personnes dans un groupe qui a bien été préparé pour sa diversité, ça reproduit quelque chose qui a du sens. Alors je reviens à ce groupe. Pour avoir 15 personnes, en fait, il faut en tirer 200 à peu près. Parce qu'il ne faut pas que ce soit obligatoire. Donc vous en avez la moitié qui refuse de faire ça. Quand vous leur téléphonez, donc c'est une agence de sondage qui fait ce boulot, c'est leur métier, téléphone à ces 200 personnes, il y en a la moitié qui disent non, j'ai autre chose à faire, je ne suis pas disponible. Sur ceux qui restent, eh bien, il faut faire ensuite, il faut les choisir en les interrogeant d'abord pour vérifier qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier. Par exemple, si vous faites une conférence de citoyens sur les déchets nucléaires, il ne faut pas prendre la femme d'un directeur du CEA. Bon, des choses comme ça. Parce que, quand même, ça contamine. Donc, il faut prendre des gens naïfs, mais qui ont la volonté de se former, puisqu'ils ont accepté le truc. Étant donné qu'ils ne sont pas payés dans notre procédure, contrairement à ce qui se fait en général. Ils ne doivent pas être payés, ils doivent être indemnisés, bien sûr, de leurs frais. Donc, il faut former ce groupe d'une quinzaine, après avoir éliminé ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui ont un intérêt particulier, et ensuite en faisant donc un panel de 15 en ayant la plus grande diversité possible sur les critères habituels de sexe, catégorie socio-professionnelle, âge, région, bon, les trucs faciles. Alors ça paraît beaucoup, mais d'avoir 4-5 critères, on peut arriver à faire ça pour une quinzaine de personnes. Et quand ce groupe est constitué, donc il va avoir une formation et qui le conduira à discuter à l'intérieur du groupe et avec les formateurs, puis à rendre un avis. Et c'est là qu'on a apporté quelque chose, parce que les conférences de citoyens, c'est un mot qui veut rien dire, il y en a eu des centaines dans le monde entier depuis que les Danois les ont inventées, mais c'est jamais le même protocole, y compris au Danemark. C'est jamais, par exemple, il arrive qu'on demande, on fasse un appel aux citoyens par voie de presse. On dit, voilà, tel ministère a décidé une conférence de citoyens, veuillez téléphoner à monsieur machin pour vous inscrire. Bon, c'est absurde, parce que là, on va récupérer que des porteurs d'intérêt, évidemment. Les gens qui, bon, que ce soit du milieu associatif, militant, que ce soit des industriels, on va récupérer des gens qui ont des idées déjà bien ancrées et qui vont vouloir les défendre. Alors que le but, c'est le contraire. C'est d'avoir des gens naïfs pour arriver à produire une espèce d'avis objectif qui représenterait ce que penserait l'ensemble de la population si elle pouvait bénéficier de cette formation. C'est l'éducation pour tous, si vous voulez, mais sur un thème particulier et pour un petit groupe à chaque fois. Donc ce qu'on a imaginé, c'est comment faire un programme de formation qui ne soit pas de la magouille, qui ne soit pas une manipulation pour préparer finalement la vie qu'on veut avoir. C'est-à-dire ce que font en général toutes les instances qui organisent la démocratie participative. Alors pour ne pas tomber dans ce panneau-là, on a imaginé de faire un comité de pilotage dans lequel on met les gens qui sont connus pour avoir des positions différentes sur le sujet. Parce qu'il s'agit toujours d'un sujet controversé. On ne peut pas inventer un sujet dont il n'a jamais été question dans la société et faire une conférence de citoyens. Donc c'est des sujets controversés, mais il n'en manque pas, il y en a des dizaines. Donc on a identifié des gens qui ont écrit des livres, qui sont passés à la télé, qui ont organisé une manif, qui ont une association. Il y a des gens compétents, pas forcément dans les institutions, mais aussi dans le milieu associatif. Et ces gens compétents, on va les mettre ensemble. Alors pas trop, il faut qu'il y en ait 6 à 8 à peu près, mais ça représente déjà 6 à 8 points de vue sur le sujet. Et puis y ajouter deux juristes ou sociologues qui connaissent la procédure et qui vont permettre de maintenir une espèce de rigueur sur la procédure qu'on est en train de mener, mais qui n'ont pas d'avis particulier sur la question. Donc ces gens qui ne sont pas d'accord entre eux, on leur demande une seule chose, et c'est là qu'il y a consensus, c'est pas dans l'avis des citoyens, c'est dans l'avis des gens du comité de pilotage, on leur demande de se mettre d'accord sur le programme. On leur demande d'établir le nombre d'heures qu'ils pensent qu'il faut réserver à telle ou telle question, donc de déterminer les questions à l'intérieur du thème, le nombre d'heures, d'identifier les formateurs dont ils pensent qu'ils sont assez pédagogues, représentatifs, et de se mettre d'accord là-dessus. Alors évidemment, ils s'engueulent, ça prend un certain temps. Parce que comme ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ont tendance à vouloir faire passer les gens. Mais ça finit par un consensus. Et on pense que ce consensus, c'est la meilleure garantie d'objectivité de la formation. Elle ne peut pas être absolue, hein, cette objectivité. Mais c'est la meilleure garantie que des gens pas d'accord entre eux se sont mis d'accord sur le programme de formation. Ils ne vont pas faire la formation. Ils ne vont jamais voir les citoyens, ces gens-là. Leur boulot, c'est ça, faire le programme. Mais c'est énorme, c'est fondamental. Ensuite, donc, les citoyens vont recevoir la formation. En général, c'est 2 week-ends espacés pour qu'ils aient le temps de cogiter. Ils ont aussi des documents à lire à la maison, des films à visionner, qui ont également été répartis par le comité de pilotage sur la même base de consensus entre des gens pas d'accord, pour éviter d'avoir une pile de trucs, mais d'avoir quand même du matériel. Donc ils deviennent très savants au bout de 2 week-ends. Ils ont discuté avec les formateurs, discuté, mais seulement pendant les heures convenues. Si, par exemple, le comité de pilotage a dit il faut 1h15 où un tel va leur parler de ça et discuter avec eux, il faut 45 minutes pour tel autre sujet, ça va être comme ça, c'est chronométré. Jamais les formateurs ne vont déjeuner, par exemple, déborder leur temps de pouvoir, finalement, en déjeunant avec les citoyens. Donc, et les citoyens sont anonymes pour les médias. C'est-à-dire que la procédure se passe dans un endroit tranquille, de qualité, mais paisible, où il n'y a pas les journalistes, lesquels seront invités à la fin seulement. Donc ils sont anonymes, il n'y a pas de pression sur eux. Tout ce qui leur arrive, c'est ce qui a été décidé par le comité de pilotage. Ils ont donc ces 2 week-ends de formation, et puis le 3e week-end, c'est eux qui l'organisent. Ils sont devenus assez savants pour demander qu'on fasse comparaître devant eux des spécialistes, que ce soit des experts techniques ou des sociologues ou des curés ou tout ce qu'ils veulent, pour les interroger sur le sujet, pour parfaire finalement leur savoir. Et ils vont interroger ces gens-là. Et ça, c'est une, quelque chose qui se passe en public, mais où le public n'intervient pas, mais peut assister. Donc moi, je n'ai pas manqué d'assister à plusieurs de ces choses. C'est absolument extraordinaire. Où vous voyez les types que vous voyez à la télé, souvent les experts qui roulent des mécaniques, et ils sont là. Il y a les 15 citoyens alignés qui se sont, qui ont préparé leurs questions et qui disent « Oui, monsieur, mais alors là, vous prétendez que ça... » Mais il y a un article dans Nature en 1998 qui démontre que... Bref, ils apportent de la contradiction avec beaucoup d'effronterie parce qu'ils savent qu'ils ont déjà une certaine expertise du sujet et qu'on ne peut pas les rouler dans la farine. Et ça, c'est un moment très jouissif. Pas pour l'expert, qui n'est pas à l'aise en général. Bon. Et la journée se passe comme ça. Et à la fin de la journée, les citoyens se retirent parce qu'ils ont été démasqués. On a pu les voir, il y a des journalistes dans la salle. Donc, il ne faut pas qu'on puisse les influencer avant la rédaction de l'avis. Ils se retirent dans l'arrière-boutique et ils rédigent leur avis. En général, ça prend la nuit. Vers 5h, 6h, ils ont fini. Ils vont se coucher un peu. Et puis, il y a une conférence de presse, pas avant 11h, parce que les journalistes ne se lèvent jamais tôt. Mais de toute façon, ils ne viennent pas, en général. Même quand c'est des conférences de citoyens officiels, il y a très peu de journalistes, il y en a 3 ou 4. Parce que c'est pas des vedettes, c'est des citoyens lambda. Si on leur mettait des vedettes, bien sûr, mais ce ne serait pas du tout dans le principe. Donc, cet avis, il l'envoie au commanditaire qui, dans l'idéal, est l'Assemblée nationale, un ministère ou plusieurs ministères, bref, des structures qui sont capables d'assumer l'avis des citoyens. Je veux dire tout de suite, parce que souvent on me demande, vous voulez pas nous faire une conférence de citoyens dans telle région, pour tel problème, mais avec aucun pouvoir pour ceux qui le demandent d'assumer éventuellement l'avis des citoyens. Donc c'est pas possible. Il faut que ce soit une puissance politique qui ait ce pouvoir. Alors la difficulté, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on peut obliger des députés à assumer, à avaliser l'avis que les citoyens ont rendu ? Non, on peut pas. Ils sont élus, et alors que les citoyens n'ont pas de responsabilité ensuite. Ils peuvent rendre un avis, après ils disparaissent. Ils disparaissent puisqu'on dissout la conférence de citoyens dès le rendu de l'avis. Donc ils n'ont pas les mêmes responsabilités que les élus, bien sûr. Et on est obligé de jouer le jeu. Peut-être que dans 10, 20 ans, on pourra voir les choses autrement. Mais pour le moment, il n'est pas question de faire autrement que de laisser les élus décider. Mais pour quand même qu'on ne se moque pas des citoyens, ce qu'on demande, c'est que d'abord ce protocole soit rentré dans la loi, parce que pour le moment il n'existe pas. Il faut qu'il soit rentré dans la loi avec des précisions, avec des décrets qui fixent ce que je suis en train de vous dire là, les règles, et qu'on n'a pas le droit de dépasser ces règles-là, sinon c'est encore n'importe quoi. Et si c'est n'importe quoi, c'est l'argument qui est pris aussi bien par les politiques que les industriels pour dire, oui, c'est n'importe quoi, on ne va pas en tenir compte. Donc il faut que ce soit exemplaire à chaque fois. La première chose, c'est le rentrer dans la loi. Et ensuite, dans cette loi même, il doit être dit qu'à l'issue d'une convention de citoyens, puisque cette convention de citoyens, c'est le nom que nous avons donné à des conférences de citoyens selon le modèle que je suis en train de vous présenter avec ce comité de pilotage, avec l'anonymat, avec tout ça, qui sont des règles qu'il faut imposer absolument. Donc on a donné un nom nouveau pour ne pas confondre avec le n'importe quoi qui se fait en général. Eh bien, il faut qu'il soit écrit dans la loi que les députés vont voter nominalement. Ils ont le droit d'être contre, mais il faut qu'ils le disent, qu'ils disent pourquoi, et qu'ils se dévoilent, qu'ils ne pourront pas dire dans 20 ans « Mais Monsanto nous avait dit qu'on pouvait cultiver tel machin ». Non, là, c'est les citoyens qui disent. Donc il faut qu'ils expriment s'ils ont un désaccord et qu'ils soient donc responsables devant l'avenir et à long terme. Voilà ce qu'on anime. Je dirais, c'est pas la seule vocation de Sciences Citoyennes. Hein. C'est une de nos activités, mais on s'est beaucoup battu sur les lanceurs d'alerte, sur l'expertise, sur beaucoup de choses, et sur la démocratie en général dans les sciences.
C'est ce que vous appelez mettre la science en démocratie. C'est très bien dit. De façon résumée, ça fait penser effectivement à mettre la science en culture.
C'est très ambitieux.
Mettre la science en démocratie. Oui, en tout cas, ça demande beaucoup de moyens et de volonté. Alors déjà, un peu plus d'une heure en compagnie de Jacques Testard, qui nous a dit beaucoup de choses, que vous pourrez évidemment lire et qui sont développées dans son livre. Mais certainement, avez-vous plein de questions à lui poser, et c'est le moment.
Juste, j'ajouterai un petit mot, c'est pas pour faire de la pub, mais je me suis aperçu que dans mes 3-4 derniers bouquins, qui porte sur les OGM, sur la démocratie technique, sur la bioéthique. À chaque fois, j'ai un chapitre à la fin où je raconte ça. Et je me dis, bon, c'est pas normal, quoi, que ce soit un truc qui vienne comme ça en additif. Et j'ai décidé de faire un livre consacré à ça. Il paraît dans un mois aux éditions du Seuil. Il a un titre que je pourrais justifier. Il s'appelle « L'humanitude au pouvoir ».